Les comédiens sans le savoir, 2. Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, dit Bixiou. Une des plus grandes fautes que commettent les gens qui peignent nos mœurs est de répéter de vieux portraits. Aujourd'hui, chaque état s'est renouvelé. Les épiciers deviennent pairs de France, les artistes capitalisent, les vaudevillistes ont des rentes. Si quelques rares figures restent ce qu'elles étaient jadis, en général les professions n'ont plus leur costume spécial, ni leurs anciennes mœurs. Si nous avons eu Gobseck, Gigonnet, Chaboisseau, Saint-Manon, les derniers des Romains, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier bon enfant, petit maître qui hante les coulisses, les lorettes, et qui se promène dans un petit coupé bas à un cheval. « Observez bien mon homme, ami Gazonal. Vous allez voir la comédie de l'argent. L'homme froid qui ne veut rien donner, l'homme chaud qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le surtout. » Et tous trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une maison de très belle apparence, située sur le boulevard des Italiens, et s'y trouvèrent environnés de toutes les élégances alors à la mode. Un jeune homme d'environ 28 ans vint à leur rencontre, d'un air presque riant, car il vit Léon de Lora, le premier. Vauvinet donna la poignée de main, en apparence la plus amicale, à Bixiou, salua d'un air froid Gazonal, et les fit entrer dans un cabinet, où tous les goûts du bourgeois se devinaient sous l'apparence artistique de l'ameublement, et malgré les statuettes à la mode, les 1000 petites choses appropriées à nos petits appartements par l'art moderne, qui s'est fait aussi petit que le consommateur. Vauvinet était mis, comme les jeunes gens qui se livrent aux affaires, avec une recherche excessive, qui, pour beaucoup d'entre eux, est une espèce de prospectus. « Je viens te chercher de la monnaie, » dit en riant Bixiou, qui présenta ses effets. Vauvinet prit un air sérieux, dont sourit Gazonal, tant il y eut de différence entre le visage riant et le visage de l'escompteur mis en demeure. « Mon cher, » dit Vauvinet en regardant Bixiou, « ce serait avec le plus grand plaisir que je t'obligerais, mais je n'ai pas d'argent en ce moment. »«
Ah, bah, oui, j'ai tout donné, tu sais à qui. » « Ce pauvre Lousteau s'est associé pour la direction d'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très protégé par le ministère, Ridal, et il leur a fallu 30 000 francs hier. Je suis à sec, et tellement à sec, que je vais envoyer chercher de l'argent chez Cérizet pour payer 100 louis perdus au lansquenet ce matin, chez Jenny Cadine. »
« Il faut que vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, » dit Léon de Lora, « car il est bien mauvaise langue quand il se trouve à la côte. »«
Mais, » reprit Bixiou, « je ne puis dire que du bien de Vauvinet, il est plein de bien. »«
Mon cher, » reprit Vauvinet, « il me serait impossible, eussé-je de l'argent de t'escompter, fût-ce à 50%. » des billets souscrits par ton portier. Le rave nouillé n'est pas demandé. Ce n'est pas là du Rothschild. Je te préviens que cette valeur est très éventée. Il te faut inventer une autre maison. Cherche un oncle, car un ami qui nous signe des billets, ça ne se voit plus. Le positif du siècle fait d'horribles progrès.
« J'ai, » dit Bixiou qui désigna le cousin de Léon, « j'ai monsieur. » Un de nos plus illustres fabricants de draps du Midi, nommé Gazonal. Il n'est pas très bien coiffé, reprit-il en regardant la chevelure ébouriffée et luxuriante du provincial. Mais je vais le mener chez Marius, qui va lui ôter cette apparence de caniche, si nuisible à sa considération et à la nôtre.
Je ne crois pas aux valeurs du Midi, soit dit sans offenser monsieur, répondit Vauvinet, qui rendit Gazonal si content que Gazonal ne se fâcha point de cette insolence. Gazonal, en homme excessivement pénétrant, crut que le peintre et Bixiou voulaient, pour lui apprendre à connaître Paris, lui faire payer 1 000 francs le déjeuner du café de Paris, car le fils du Roussillon n'avait pas encore quitté cette prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l'homme de province. « Comment veux-tu que j'aie des affaires à 250 lieues de Paris, dans les Pyrénées ?» ajouta Vauvinet.
« C'est donc dit, » reprit Bixiou.
« J'ai 20 francs chez moi, » dit le jeune escompteur.
« J'en suis fâché pour toi, » répliqua le mystificateur.
« Je croyais valoir 1 000 francs, » dit-il sèchement.
« Tu vaux 100 000 francs, » reprit Vauvinet.
« Quelquefois même tu es impayable. »
Mais je suis à sec.
Eh bien, répondit Bixiou, n'en parlons plus. Je t'avais ménagé pour ce soir, chez Carabine, la meilleure affaire que tu pouvais souhaiter. Tu sais.
Vauvinet cligna d'un œil en regardant Bixiou, grimace que font les maquignons pour se dire entre eux, ne joutons pas de finesse.
Tu ne te souviens plus de m'avoir pris par la taille? « Absolument comme une jolie femme, en me caressant du regard et de la parole, » reprit Bixiou. « Quand tu me disais, « Je ferai tout pour toi, si tu peux me procurer au père des actions du chemin de fer, que soumissionnent Dutillet et Nucingen. » Eh bien, mon cher, Maxime et Nucingen viennent chez Carabine, qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes politiques. Tu perds là, mon vieux, une belle occasion. » « Ah non, adieu, carotteur !» Et Bixiou se leva, laissant Vauvinet assez froid en apparence, mais réellement mécontent, comme un homme qui reconnaît avoir fait une sottise. « Mon cher, un instant !» dit l'escompteur. « Si je n'ai pas d'argent, j'ai du crédit. Si tes billets ne valent rien, je puis les garder et te donner en échange des valeurs de portefeuille. » « Enfin, nous pouvons nous entendre pour les actions du chemin de fer. Nous partagerions, dans une certaine proportion, les bénéfices de cette opération, et je te ferai alors une remise à valoir sur les bénéfices. »«
Non, non !» répondit Bixiou. « J'ai besoin d'argent. Il faut que je fasse mon ravenouillé. »«
Ravenouillé est, d'ailleurs, très bon, » dit Vauvinet. « Il place à la caisse d'épargne. Il est excellent. »
« Il est meilleur que toi, » ajouta Léon, « car il ne stipendie pas de lorette, il n'a pas de loyer, il ne se lance pas dans les spéculations en craignant tout de la hausse ou de la baisse. »«
Vous croyez rire, grand homme, » reprit Vauvinet, devenu jovial et caressant. « Vous avez mis en élixir la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Allons, Gubetta, mon vieux complice !» dit Vauvinet en prenant Bixiou par la taille. « Il te faut de l'argent. Eh bien, je puis bien emprunter 3 000 francs à mon ami Cérizet au lieu de 2 000. Et soyons amis, Sina. Donne-moi tes 2 feuilles de chou colossales. Si je t'ai refusé, c'est qu'il est bien dur à un homme qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en passant ses valeurs à la banque de garder ton ravenouillé dans le tiroir de son bureau. » C'est dur, c'est très dur.
Et que prends-tu d'escompte ? Dit Bixiou.
Presque rien, reprit Vauvinet. Cela te coûtera, à 3 mois, 50 malheureux francs.
Comme disait jadis Émile Blondet, tu seras mon bienfaiteur, répondit Bixiou.
20% intérêt en dedans ?
Dit Gazonal à l'oreille de Bixiou, qui lui répliqua par un grand coup de coude dans l'œsophage. « Tiens !» dit Vauvinet en ouvrant le tiroir de son bureau. « J'aperçois là, mon bon, un vieux billet de 500 qui s'est collé contre la bande, et je ne me savais pas si riche, car je te cherchais un effet à recevoir, fin prochain, de 450. Cérizet te le prendra sans grande diminution, et voilà ta somme faite. » « Mais pas de farce, Bixiou. »«
Hein ? Ce soir, j'irai chez Carabine. Tu me jures ?»«
Est-ce que nous ne sommes pas réamis ?» dit Bixiou, qui prit le billet de 500 francs et l'effet de 450 francs. « Je te donne ma parole d'honneur que tu verras ce soir Dutillet
et bien des gens qui veulent faire leur chemin de fer chez Carabine. » Vauvinet reconduisit les trois amis jusque sur le palier en cajolant Bixiou. Bixiou resta sérieux jusque sur le pas de la porte. Il écoutait Gazonal qui tentait de l'éclairer sur cette opération et qui lui prouvait que si le compère de Vauvinet, ce Cérizet, lui prenait 20 francs d'escompte sur le billet de 450 francs, c'était de l'argent à 40%. Sur l'asphalte, Bixiou glaça Gazonal par le rire du mystificateur parisien. Ce rire muet et froid, une sorte de bise labiale. L'adjudication du chemin sera positivement ajournée à la chambre, dit-il. Nous le savons d'hier par cette marcheuse à qui nous avons souri. Et si je gagne ce soir 5 à 6 000 francs au lansquenet, qu'est-ce que 70 francs de perte pour avoir de quoi miser? Le lansquenet est encore une des 1000 facettes de Paris, comme il est, reprit Léon. Aussi, cousin, comptons-nous te présenter chez une duchesse de la rue Saint-Georges, où tu verras l'aristocratie des Lorettes et où tu peux gagner ton procès. Or, il est impossible de t'y montrer avec tes cheveux pyrénéens, tu as l'air d'un hérisson. Nous allons te mener ici près, place de la Bourse, chez Marius, un autre de nos acteurs. Quel est ce nouvel acteur? Voilà l'anecdote, répondit Bixiou. En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambition, vint à Paris et y leva boutique. Je me sers de votre argot. Cet homme de génie, il jouit de 24 000 francs de rente à Libourne où il s'est retiré. Compris que ce nom vulgaire et ignoble n'atteindrait jamais à la célébrité. Monsieur de Parny, qu'il coiffait, lui donna le nom de Marius, infiniment supérieur aux prénoms d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms patronymiques attachés du mal Cabot. Tous les successeurs de Cabot se sont appelés Marius. Le Marius actuel est Marius V. Il se nomme Mougin. Il en est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l'eau de Botteau, pour l'encre de la petite vertu. À Paris, un nom devient une propriété commerciale et finit par constituer une sorte de noblesse d'enseigne. Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la première école de coiffure du monde. « J'ai déjà vu, en traversant la France, dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où se lisent ces mots. Un tel, élève de Marius. Ces élèves doivent se laver les mains après chaque frisure faite, répondit Bixiou. Mais Marius ne les admet pas indifféremment. Ils doivent avoir la main jolie et ne pas être laids. Les plus remarquables, comme élocution, comme tournure, vont coiffer en ville. Ils reviennent très fatigués. Marius ne se déplace que pour les femmes titrées. Il a cabriolé et groom. Mais ce n'est après tout qu'un merlan, s'écria Gazonal indigné. Merlan, reprit Bixiou. Songez qu'il est capitaine dans la garde nationale et qu'il est décoré pour avoir sauté le premier dans une barricade en 1832. Prends garde. Ce n'est ni un coiffeur ni un perruquier. C'est un directeur de salon de coiffure, dit Léon en montant un escalier à balustres en cristal, à rampe d'acajou, et dont les marches étaient couvertes d'un tapis somptueux. « Ah, ça, n'allez pas nous compromettre, » dit Bixiou à Gazonal. « Dans l'antichambre, vous allez trouver des laquais qui vous ôteront votre habit, votre chapeau pour les brosser, et qui vous accompagne jusqu'à la porte d'un des salons de coiffure pour l'ouvrir et la refermer. Il est utile de vous dire cela, mon ami Gazonal, ajouta finement Bixiou, car vous pourriez crier au voleur. Ces salons, dit Léon, sont 3 boudoirs où le directeur a réuni toutes les inventions du luxe moderne. Aux fenêtres, des lambrequins, partout des jardinières, des divans moelleux où l'on peut attendre son tour en lisant les journaux, quand toutes les toilettes sont occupées. En entrant, tu pourrais tâter ton gousset et croire qu'on va te demander 5 francs, mais il n'est extrait de toute espèce de poche que 10 sous pour une frisure et 20 sous pour une coiffure avec taille de cheveux. D'élégantes toilettes se mêlent aux jardinières et il en jaillit de l'eau par des robinets. Partout des glaces énormes reproduisent les figures. Ainsi ne fait pas l'étonner. Quand le client, tel est le mot élégant substitué par Marius à l'ignoble mot de pratique, quand le client apparaît sur le seuil, Marius lui jette un coup d'œil et il est apprécié. Pour lui, vous êtes une tête plus ou moins susceptible de l'occuper. Pour Marius, il n'y a plus d'homme, il n'y a que des têtes. Nous allons vous faire entendre Marius sur tous les tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez imiter notre jeu. Aussitôt que Gazonal se montra, le coup d'œil de Marius lui fut favorable. Il s'écria « Régoulous, à vous cette tête !» « Rognez-la d'abord au petit ciseau. »« Pardon, » dit Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou. « Je désire être coiffé par monsieur Marius lui-même. » Marius, très flatté de cette prétention, s'avança en laissant la tête qu'il tenait. « Je suis à vous. Je finis. Soyez sans inquiétude. Mon élève vous préparera. Moi seul, je déciderai de la coupe. » Marius, petit homme grêlé, les cheveux frisés comme ceux de Rubini, d'un noir de jais, et mis tout en noir, en manchette, le jabot de sa chemise orné d'un diamant, reconnut alors Bixiou, qu'il salua comme une puissance égale à la sienne. « C'est une tête ordinaire, » dit-il à Léon en désignant le monsieur qu'il était en train de coiffer. « Un épicier, que voulez-vous ? Si l'on ne faisait que de l'art, on mourrait à Bicêtre, fou !» Et il retourna par un geste inimitable à son client, après avoir dit à Régoulous « Soigne monsieur, c'est évidemment un artiste. »« Un journaliste !» dit Bixiou. Sur ce mot, Marius donna 2 ou 3 coups de peigne à la tête ordinaire et se jeta sur Gazonal, en prenant Régoulous par le bras au moment où il allait faire jouer ses petits ciseaux. « Je me charge de monsieur. »« Voyez, monsieur, » dit-il à l'épicier, « reflétez-vous dans la grande glace. »« Ossian ?» Le laquais entra et s'empara du client pour le vêtir. « Vous paierez à la caisse, monsieur, » dit Marius à la pratique stupéfaite qui déjà tirait sa bourse. « Est-ce bien utile, mon cher, de procéder à cette opération des petits ciseaux ?» dit Bixiou. « Aucune tête ne m'arrive que nettoyer, » répondit l'illustre coiffeur. « Mais pour vous, je ferai celle de monsieur tout entière. Mes élèves ébauchent, car je n'y tiendrai pas. Le mot de tout le monde est le vôtre. Être coiffé par Marius ? Je ne puis donner que le fini. Dans quel journal travaille monsieur ? À votre place, j'aurai 3 ou 4 Marius, » dit Gazonal. « Ah, monsieur, je le vois, et feuilletoniste, » dit Marius. « Hélas, en coiffure où l'on paye de sa personne, c'est impossible. Pardon. » Il quitta Gazonal pour aller surveiller Régoulous qui préparait une tête nouvellement arrivée. Il fit, en frappant la langue contre le palais, un bruit désapprobatif qui peut se traduire par « tchut-tchut ». « Allons, bon Dieu, ce n'est pas assez carré, votre coup de ciseau fait des hachures. Tenez, voilà !»« Régoulous, il ne s'agit pas de tondre des caniches. C'est des hommes qui ont leur caractère. Et si vous continuez à regarder le plafond au lieu de vous regarder entre la glace et la face, vous déshonorerez ma maison. »« Vous êtes sévère, monsieur Marius. Je leur dois les secrets de l'art. » « C'est donc un art ?» dit Gazonal. Marius, indigné, regarda Gazonal dans la glace et s'arrêta, le peigne d'une main, les ciseaux de l'autre. « Monsieur, vous en parlez comme un enfant. et cependant, à l'accent, vous paraissez être du Midi, le pays des hommes de génie.
Oui, je sais qu'il faut une sorte de goût, répliqua Gazonal.
Mais taisez-vous donc, monsieur, j'attendais mieux de vous. C'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un bon coiffeur, car on est ou l'on n'est pas coiffeur. Un coiffeur, c'est plus difficile à trouver que... Qu'est-ce que je dirais bien? Qu'un... je ne sais pas quoi, un ministre. Restez en place. Non, car on ne peut pas juger de la valeur d'un ministre. Les rues sont pleines de ministres. Un Paganini. Non, ce n'est pas assez. Un coiffeur, monsieur. Un homme qui devine votre âme et vos habitudes, afin de vous coiffer à votre physionomie. Il lui faut ce qui constitue un philosophe. Et les femmes, donc, tenez, les femmes nous apprécient, elles savent ce que nous valons. Nous valons la conquête qu'elles veulent faire le jour où elles se font coiffer pour remporter un triomphe. C'est-à-dire qu'un coiffeur, on ne sait pas ce que c'est. Tenez, moi qui vous parle, je suis à peu près ce qu'on peut trouver de... Sans me vanter, on me connaît. Eh bien non, je trouve qu'il doit y avoir mieux. L'exécution, voilà la chose. Ah, si les femmes me donnaient carte blanche, si je pouvais exécuter tout ce qui me vient d'idée, c'est que j'ai, voyez-vous, une imagination d'enfer. Mais les femmes ne s'y prêtent pas, elles ont leurs plans. Elles vous fourrent des coups de doigt ou de peigne quand vous êtes parti dans nos délicieux édifices qui devraient être gravés et recueillis, car nos œuvres, monsieur, ne durent que quelques heures. Un grand coiffeur, ce serait quelque chose comme Carême et Vestry dans leur partie. Par ici, la tête. Là, s'il vous plaît, je fais les faces. Bien. Notre profession est gâtée par des massacres qui ne comprennent ni leur époque ni leur art. Il y a des marchands de perruques ou d'essence à faire pousser les cheveux. Ils ne voient que des flacons à vous vendre. Cela fait pitié. C'est du commerce. Ces misérables coupent les cheveux ou ils coiffent comme ils peuvent. Moi, quand je suis arrivé de Toulouse, ici, j'avais l'ambition de succéder au grand Marius, d'être un vrai Marius. Et d'illustrer le nom, à moi seul, plus que les quatre autres. Je me suis dit, vaincre ou mourir. Là, tenez-vous droit, je vais vous achever. C'est moi qui le premier ai fait de l'élégance. J'ai rendu mes salons l'objet de la curiosité. Je dédaigne l'annonce, et ce que coûte l'annonce, je le mettrai, monsieur, en bien-être, en agrément. L'année prochaine, j'aurai dans un petit salon un quatuor. On fera de la musique et de la meilleure. Oui, il faut charmer les ennuis de ce que l'on coiffe. Je ne me dissimule pas les déplaisirs de la pratique. Regardez-vous. Se faire coiffer, c'est fatigant. Peut-être autant que de poser pour son portrait. Et monsieur sait peut-être que le fameux monsieur de Humboldt, j'ai su tirer parti du peu de cheveux que l'Amérique lui a laissé. La science a ce rapport avec le sauvage qu'elle scalpe très bien son homme. Cet illustre savant a dit qu'après la douleur d'aller se faire pendre, il y avait celle d'aller se faire peindre. Mais d'après quelques femmes, je place celle de se faire coiffer avant celle de se faire peindre. Eh bien, monsieur, je veux qu'on vienne se faire coiffer par plaisir. Vous avez un épi qu'il faut dompter. Un juif m'avait proposé des cantatrices italiennes qui, dans les entr'actes, auraient épilé les jeunes gens de 40 ans. Mais elles se sont trouvées être des jeunes filles du conservatoire, des maîtresses de piano de la rue Montmartre. Vous voilà coiffé, monsieur, comme un homme de talent doit l'être. Ossian, dit-il à son laquais en livrée. Brossez et reconduisez monsieur. À qui le tour ? Ajouta-t-il avec orgueil en regardant les personnes qui attendaient. Ne ris pas, Gazonal, dit Léon à son cousin en atteignant au bas de l'escalier, d'où son regard plongeait sur la place de la Bourse. « J'aperçois là-bas un de nos grands hommes, et tu vas pouvoir en comparer le langage à celui de cet industriel. Et tu me diras, après l'avoir entendu, lequel des deux est le plus original. » « Ne ris pas, Gazonal !» dit Bixiou, qui répéta facétieusement l'intonation de Léon. « De quoi croyez-vous Marius occupé ?»«
De quoi fait ?»«
Il a conquis, » reprit Bixiou, « le monopole de la vente des cheveux en gros, comme tel marchand de comestibles qui va nous vendre une terrine d'un écu s'est attribué celui de la vente des truffes. Il escompte le papier de son commerce. » Il prête sur gage à ses clientes dans l'embarras. Il fait la rente viagère. Il joue à la bourse. Il est actionnaire dans tous les journaux de mode. Enfin, il vend, sous le nom d'un pharmacien, une infâme drogue qui, pour sa part, lui donne 30 000 francs de rente et qui coûte 100 000 francs d'annonce par an.
« Est-ce possible ? » s'écria Gazonal.
« Retenez ceci. » dit gravement Bixiou. À Paris, il n'y a pas de petit commerce. Tout s'y a grandi, depuis la vente des chiffons jusqu'à celle des allumettes. Le limonadier, qui, la serviette sous le bras, vous regarde entrer chez lui, peut avoir 50 000 francs de rente. Un garçon de restaurant est électeur éligible, et tel homme que vous prendriez pour un indigent à le voir passer dans la rue, porte dans son gilet pour 100 000 francs de diamants à monter, et ne les vole pas. » Les trois inséparables, pour la journée du moins, allaient sous la direction du paysagiste de manière à heurter un homme d'environ 40 ans, décoré, qui venait du boulevard par la rue Neuve-Vivienne. « Eh bien, dit Léon, à quoi rêves-tu, mon cher Dubourdieu ? À quelque belle composition symbolique ? « Mon cher cousin, j'ai le plaisir de vous présenter notre illustre peintre Dubourdieu, non moins célèbre par son talent que par ses convictions humanitaires. Dubourdieu, mon cousin Palafox. » Dubourdieu, petit homme à teint pâle, à l'œil bleu mélancolique, salua légèrement Gazonal qui s'inclina devant l'homme de génie. « Vous avez donc nommé Stidman à la place de... « Que veux-tu ? Je n'y étais pas, » répondit le grand paysagiste. « Vous déconsidérerez l'académie, » reprit le peintre. « Allez choisir un pareil homme, je ne veux pas en dire du mal, mais il faut du métier. Où mènera-t-on le premier des arts, celui dont les œuvres sont les plus durables, qui révèlent les nations après que le monde a perdu tout d'elles jusqu'à leurs souvenirs ? Qui consacre les grands hommes ? C'est un sacerdoce que la sculpture. Elle résume les idées d'une époque, et vous allez recruter un faiseur de bons hommes et de cheminées, un ornemaniste, un des vendeurs du temple. Ah, comme disait Champfort, il faut commencer par avaler une vipère tous les matins pour supporter la vie à Paris. Enfin, l'art nous reste. On ne peut pas nous empêcher de le cultiver. Et puis, mon cher, vous avez une consolation que peu d'artistes possèdent. L'avenir est à vous, dit Bixiou. Quand le monde sera converti à notre doctrine, vous serez à la tête de votre art, car vous y portez des idées que l'on comprendra lorsqu'elles auront été généralisées. Dans 50 ans d'ici, vous serez pour tout le monde ce que vous n'êtes que pour nous autres, un grand homme. Seulement, il s'agit d'aller jusque-là. « Je viens, » reprit l'artiste dont la figure se dilata comme se dilate celle d'un homme de qui l'on flatte le dada, « de terminer la figure allégorique de l'harmonie. Et si vous voulez la venir voir, vous comprendrez bien que j'ai pu rester 2 ans à la faire. Il y a tout. Au premier coup d'œil qu'on y jette, on devine la destinée du globe. La reine tient le bâton pastoral d'une main, symbole de l'agrandissement des races utiles à l'homme. Elle est coiffée du bonnet de la liberté. Ses mamelles sont sextuples à la façon égyptienne, car les Égyptiens avaient pressenti Fourier. Ses pieds reposent sur deux mains jointes qui embrassent le globe en signe de la fraternité des races humaines. Elle foule des canons détruits pour signifier l'abolition de la guerre. Et j'ai tâché de lui faire exprimer la sérénité de l'agriculture triomphante. J'ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme chou frisé qui, selon notre maître, est l'image de la concorde. Oh, ce n'est pas un des moindres titres de Fourier à la vénération que d'avoir restitué la pensée aux plantes. Il a tout relié dans la création par la signification des choses entre elles, et aussi par leur langage spécial. Dans 100 ans, le monde sera bien plus grand qu'il n'est. Et comment, monsieur, cela se fera-t-il ? Dit Gazonal, stupéfait d'entendre parler ainsi un homme sans qu'il fût dans une maison de fous. Par l'étendue de la production, si l'on veut appliquer le système, il ne sera pas impossible de réagir sur les astres. Et que deviendra donc alors la peinture ? Demanda Gazonal. Elle sera plus grande. Et aurons-nous des yeux plus grands ? Dit Gazonal en regardant ses deux amis d'un air significatif. L'homme redeviendra ce qu'il était avant son abattardissement. Nos hommes de 6 pieds seront alors des nains. Ton tableau, dit Léon, est-il fini ?
Entièrement fini, reprit Dubourdieu. J'ai tâché de voir Iclar pour qu'il compose une symphonie. Je voudrais qu'en voyant cette composition, on entendit une musique à la Beethoven qui en développerait les idées afin de les mettre à la portée des intelligences sous 2 modes. Ah, si le gouvernement voulait me prêter une des salles du Louvre.
Mais j'en parlerai si tu veux, car il ne faut rien négliger pour frapper les esprits. Oh, mes amis préparent des articles, mais j'ai peur qu'ils n'aillent trop loin.
Bah, dit Bixiou. Ils n'iront pas si loin que l'avenir. »
Dubourdieu regarda Bixiou de travers et continua son chemin.
« Mais c'est un fou !» dit Gazonal. « Le cours de la lune le guide. »«
Il a de la main, il a du savoir, » dit Léon. « Mais le fouriérisme l'a tué. Tu viens de voir là, cousin, l'un des effets de l'ambition chez les artistes. Trop souvent, à Paris, dans le désir d'arriver plus promptement que par la voie naturelle à cette célébrité qui, pour eux, est la fortune, les artistes empruntent les ailes de la circonstance. Ils croient se grandir en se faisant les hommes d'une chose, en devenant les souteneurs d'un système, et ils espèrent changer une coterie en public. Tel est républicain, tel autre était saint-simonien, tel est aristocrate, tel catholique, tel juste milieu, tel Moyen-Âge, ou allemand, par parti pris. Mais si l'opinion ne donne pas le talent, elle le gâte toujours, témoin le pauvre garçon que vous venez de voir. L'opinion d'un artiste doit être la foi dans les œuvres, et son seul moyen de succès, le travail, quand la nature lui a donné le feu sacré. « Sauvons-nous, » dit Bixiou. « Léon moralise. »«
Et cet homme était de bonne foi ?» s'écria Gazonal encore stupéfait.
« De très bonne foi, » répliqua Bixiou. « D'aussi bonne foi que tout à l'heure le roi des Merlans. »«
Il est fou, » dit Gazonal.
« Et ce n'est pas le seul que les idées de Fourier aient rendu fou, » dit Bixiou. « Vous ne savez rien de Paris. » « Demandez-y 100 000 francs pour réaliser l'idée la plus utile au genre humain, pour essayer quelque chose de pareil à la machine à vapeur. Vous y mourrez, comme Salomon de Co à Bicêtre. Mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se fait tuer pour cela, soi et sa fortune. Eh bien, ici, il en est des systèmes comme des choses. Les journaux impossibles y ont dévoré des millions depuis 15 ans. Ce qui rendait votre procès si difficile à gagner, c'est que vous avez raison, et qu'il y a selon vous des raisons secrètes pour le préfet. Conçois-tu qu'une fois qu'il a compris le pari moral, un homme d'esprit puisse vivre ailleurs, dit Léon à son cousin.
Si nous menions Gazonal chez la mère Fontaine, dit Bixiou, qui fit signe à un cocher de citadine d'avancer, ce sera passer du sévère au fantastique.
Cocher, vieille rue du Temple. Et tous trois, ils roulèrent dans la direction du marais.
Qu'allez-vous me faire voir ? Demanda Gazonal.
La preuve de ce que t'a dit Bixiou, répondit Léon, en te montrant une femme qui se fait 20 000 francs par an en exploitant une idée.
Une tireuse de cartes, dit Bixiou, qui ne put s'empêcher d'interpréter comme une interrogation l'air du méridional.
Madame Fontaine passe parmi ceux qui cherchent à connaître l'avenir pour être plus savante que ne l'était feu Mademoiselle Lenormand.
Elle doit être bien riche, s'écria Gazonal.
Elle a été la victime de son idée, tant que la loterie a existé, répondit Bixiou. Car à Paris, il n'y a pas de grandes recettes sans grandes dépenses. Toutes les fortes têtes s'y fêlent, comme pour donner une soupape à leur vapeur. Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des vices ou des fantaisies, sans doute pour établir un équilibre.
Et maintenant que la loterie est abolie ? Demanda Gazonal.
Eh bien, elle a un neveu pour qui elle amasse. Une fois arrivés, les trois amis aperçurent, dans une des plus vieilles maisons de cette rue, un escalier à marche palpitante, à contre-marche en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour et par une puanteur particulière aux maisons à aller jusqu'au troisième étage, à une porte que le dessin seul peut rendre, la littérature y devant perdre trop de nuit pour la peindre convenablement. Une vieille, en harmonie avec la porte, et qui peut-être était la porte animée, introduisit les trois amis dans une pièce servant d'antichambre, où, malgré la chaude atmosphère qui baignait les rues de Paris, ils sentirent le froid glacial des cryptes les plus profondes. Il y venait un air humide d'une cour intérieure qui ressemblait à un vaste soupirail. Le jour y était gris, et sur l'appui de la fenêtre se trouvait un petit jardin plein de plantes malsaines. Dans cette pièce enduite d'une substance grasse et fuligineuse, les chaises, la table, tout avait l'air misérable. Le carreau suintait comme un alcaraza. Enfin, le moindre accessoire y était en harmonie avec l'affreuse vieille au nez crochu, à la face pâle et vêtue de haillons décents, qui dit aux consultants de s'asseoir, en leur apprenant qu'on n'entrait que un à un chez madame. Gazonal, qui faisait l'intrépide, entra bravement et se trouva devant l'une de ces femmes oubliées par la mort, qui, sans doute, les oublie à dessein pour laisser quelques exemplaires d'elle-même parmi les vivants. C'était une face desséchée où brillaient deux yeux gris d'une immobilité fatigante. Un nez rentré, barbouillé de tabac, des osselets très bien montés par des muscles assez ressemblants et qui, sous prétexte d'être des mains, battaient nonchalamment des cartes, comme une machine dont le mouvement va s'arrêter. Le corps, une espèce de manche à balai, décemment couvert d'une robe, jouissait des avantages de la nature morte. Il ne remuait point. Sur le front, s'élevait une coiffe en velours noir. Madame Fontaine, c'était une vraie femme, avait une poule noire à sa droite et un gros crapaud appelé Astaroth à sa gauche, que Gazonal ne vit pas tout d'abord. Le crapaud, d'une dimension surprenante, effrayait encore moins par lui-même que par deux topazes, grandes comme des pièces de 50 centimes et qui jetaient deux lueurs de lampe. Il est impossible de soutenir ce regard. Comme disait feu la saillie, qui, couché dans la campagne, voulut avoir le dernier avec un crapaud par lequel il fut fasciné, le crapaud est un être inexpliqué. Peut-être la création animale, y compris l'homme, s'y résume-t-il. « Car, disait la saillie, le crapaud vit indéfiniment. Et comme on sait, c'est celui de tous les animaux créés dont le mariage dure le plus longtemps. La poule noire avait sa cage à deux pieds de la table couverte d'un tapis vert et y venait par une planche qui faisait comme un pont-levis entre la cage et la table. Quand cette femme, la moins réelle des créatures qui meublaient ce taudis hoffmanique, dit à Gazonal « Coupez !» L'honnête fabricant sentit un frisson involontaire. Ce qui rend ces créatures si formidables, c'est l'importance de ce que nous voulons savoir. On vient leur acheter de l'espérance, et elles le savent bien. L'antre de la Sibylle était beaucoup plus sombre que l'antichambre. On n'y distinguait pas la couleur du papier. Le plafond, noirci par la fumée, loin de refléter le peu de lumière que donnait la croisée obstruée de végétations maigres et pâles, en absorbait une grande partie. Mais ce demi-jour éclairait en plein la table à laquelle la sorcière était assise. Cette table, le fauteuil de la vieille et celui sur lequel siégeait Gazonal, composaient tout le mobilier de cette petite pièce, coupée en deux par une soupente, où couchait sans doute Madame Fontaine. Gazonal entendit par une petite porte entrebâillée le murmure particulier à un pot-au-feu qui bout. Ce bruit de cuisine, accompagné d'une odeur composite où dominait celle d'un évier, mêlait incongrûment l'idée des nécessités de la vie réelle aux idées d'un pouvoir surnaturel. C'était le dégoût dans la curiosité. Gazonal aperçut une marche en bois blanc, la dernière sans doute de l'escalier intérieur qui menait à la soupente. Il embrassa tous ces détails par un seul coup d'œil, et il eut des nausées. C'était bien autrement effrayant que les récits des romanciers et les scènes des drames allemands. C'était d'une vérité suffocante. L'air dégageait une pesanteur vertigineuse. L'obscurité s'initiait par agacer les nerfs. Quand le méridional, stimulé par une espèce de fatuité, regarda le crapaud, il éprouva comme une chaleur démétique au creux de l'estomac, en ressentant une terreur assez semblable à celle du criminel devant le gendarme. Il essaya de se réconforter en examinant Madame Fontaine. Mais il rencontra deux yeux presque blancs, dont les prunelles immobiles et glacées lui furent insupportables. Le silence devint alors effrayant. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit Madame Fontaine à Gazonal. « Le jeu de 5 francs, le jeu de 10 francs ou le grand jeu ?»«
Le jeu de 5 francs est déjà bien et assez cher, » répondit le méridional, qui faisait en lui-même des efforts inouïs pour ne pas se laisser impressionner par le milieu dans lequel il se trouvait. Au moment où Gazonal essayait de se recueillir, une voix infernale le fit sauter sur son fauteuil. La poule noire caquetait. « Va-t'en, ma fille, va-t'en. Monsieur ne veut dépenser que 5 francs. » Et la poule parut avoir compris sa maîtresse, car après être venue à un pas des cartes, elle alla se remettre gravement à sa place. « Quelle fleur aimez-vous ? » demanda la vieille d'une voix enrouée par les humeurs qui montaient et descendaient incessamment dans ses bronches. « La rose. Quelle couleur affectionnez-vous ? » « Le bleu. Quel animal préférez-vous ? » « Le cheval. Pourquoi ces questions ? » demanda-t-il à son tour. « L'homme tient à toutes les formes par ses états antérieurs, » dit-elle sentencieusement. « De là viennent ses instincts, et ses instincts dominent sa destinée. Que mangez-vous avec le plus de plaisir ? Le poisson, le gibier, les céréales ? « La viande de boucherie, les douceurs, les légumes ou les fruits ?»«
Le gibier. »«
En quel mois êtes-vous né ?»«
Septembre. » »«
Avancez votre main. » Madame Fontaine regarda fort attentivement les lignes de la main qui lui était présentée.
Tout cela se fit sérieusement, sans préméditation de sorcellerie, et avec la simplicité qu'un notaire aurait mis à s'enquérir des intentions d'un client avant de rédiger un acte. Les cartes suffisamment mêlées, elle pria Gazonal de couper et de faire lui-même 3 paquets. Elle reprit les paquets, les étala l'un au-dessus de l'autre, les examina comme un joueur examine les 36 numéros de la roulette avant de risquer sa mise. Gazonal avait les os gelés, et il ne savait plus où il se trouvait. Mais son étonnement alla croissant lorsque cette affreuse vieille, à capote verte, grasse et plate, dont le faux-tour laissait voir beaucoup plus de rubans noirs que de cheveux frisés en point d'interrogation, lui débita de sa voix chargée de pituite toutes les particularités, même les plus secrètes, de sa vie antérieure. Lui raconta ses goûts, ses habitudes, son caractère, les idées mêmes de son enfance, tout ce qui pouvait avoir influé sur lui, son mariage manqué, pourquoi, avec qui, la description exacte de la femme qu'il avait aimée, et enfin de quel pays il était venu, son procès, etc. Gazonal crut à une mystification préparée par son cousin. Mais l'absurdité de cette conspiration lui fut aussitôt démontrée que l'idée lui en vint. Et il resta béant devant ce pouvoir vraiment infernal dont l'incarnation empruntait à l'humanité ce que de tout temps l'imagination des peintres et des poètes a regardé comme la chose la plus épouvantable. Une atroce petite vieille poussive, édentée, aux lèvres froides, au nez camard, aux yeux blancs. La prunelle de Madame Fontaine s'était animée. Il y passait un rayon jailli des profondeurs de l'avenir, ou de l'enfer. Gazonal demanda machinalement, en interrompant la vieille, à quoi lui servaient le crapaud et la poule. À pouvoir prédire l'avenir. Le consultant jette lui-même des grains au hasard sur les cartes, Bilouche vient les becqueter. Astaroth se traîne dessus pour aller chercher sa nourriture que le client lui tend, et ces deux admirables intelligences ne se sont jamais trompées. Voulez-vous les voir à l'ouvrage? Vous saurez votre avenir. C'est 100 francs. Gazonal, effrayé des regards d'Astaroth, se précipita dans l'antichambre après avoir salué la terrible Madame Fontaine. Il était en moiteur, et comme sous l'incubation infernale du mauvais esprit. « Allons-nous-en » dit-il aux deux artistes. « Avez-vous jamais consulté cette sorcière ?»« Je ne fais rien d'important sans faire causer Astaroth, » dit Léon, « et je m'en suis toujours bien trouvé. »« J'attends la fortune honnête que Bilouche m'a promise, » dit Bixiou. « J'ai la fièvre !» s'écria le méridional. Si je croyais à ce que vous me dites, je croirais donc à la sorcellerie, à un pouvoir surnaturel. Ça peut n'être que naturel, répliqua Bixiou. Le tiers des lorettes, le quart des hommes d'État, la moitié des artistes consultent Madame Fontaine, et l'on connaît un ministre à qui elle sert d'égérie. T'a-t-elle dit l'avenir? Reprit Léon. Non, j'en ai eu assez de mon passé. Mais si elle peut, à l'aide de ses affreux collaborateurs, prédire l'avenir, reprit Gazonal, saisi par une idée, comment pouvait-elle perdre à la loterie? Ah, tu mets le doigt sur l'un des plus grands mystères des sciences occultes, répondit Léon. Dès que cette espèce de glace intérieure, où se reflète pour eux l'avenir ou le passé, se trouble sous l'haleine d'un sentiment personnel, d'une idée quelconque étrangère à l'acte du pouvoir qu'ils exercent, sorciers ou sorcières n'y voient plus rien. De même que l'artiste qui souille l'art par une combinaison politique ou systématique perd son talent. Il y a quelque temps, un homme doué du don de divination par les cartes, le rival de Madame Fontaine, et qui s'adonnait à des pratiques criminelles, n'a pas pu se tirer les cartes à lui-même, et voir qu'il serait arrêté, jugé, condamné en cour d'assises. Madame Fontaine, qui prédit l'avenir 8 fois sur 10, n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à la loterie. « Il en est ainsi en magnétisme, » fit observer Bixiou. « L'on ne se magnétise pas soi-même. »« Bon, voilà le magnétisme, » s'écria Gazonal. « Ah, ça, vous connaissez donc tout !»«
Ami Gazonal, » répliqua gravement Bixiou, « pour pouvoir rire de tout, il faut tout connaître. Quant à moi, je suis à Paris depuis mon enfance, et mon crayon m'y fait vivre des ridicules à 5 caricatures par mois. Je me moque ainsi très souvent d'une idée à laquelle j'ai foi.
Passons à d'autres exercices, dit Léon. Allons à la chambre, où nous arrangerons l'affaire du cousin.
Ceci, dit Bixiou en imitant Audry et Gaillard, est de la haute comédie, car nous ferons poser le premier orateur que nous rencontrerons dans la salle des pas perdus. Et vous reconnaîtrez là, comme ailleurs, le langage parisien qui n'a jamais que 2 rythmes, l'intérêt ou la vanité.
En remontant en voiture, Léon aperçut, dans un cabriolet qui passait rapidement, un homme à qui, d'un signe de main, il fit comprendre qu'il voulait lui dire un mot.
« C'est Publicola Masson, » dit Léon à Bixiou. « Je vais lui demander séance pour ce soir à 5 heures, après la chambre. Le cousin aura le plus curieux de tous les originaux. »«
Qui est-ce ? » demanda Gazonal pendant que Léon parlait à Publicola Masson.
« Un pédicure, auteur d'un traité de corporistique, qui vous fait vos corps par abonnement, et qui, si les républicains triomphent pendant 6 mois, deviendra certainement immortel. »
« Une voiture !» s'écria Gazonal.
« Mais, ami Gazonal, il n'y a que les millionnaires qui ont assez de temps à eux pour aller à pied à Paris. »«
À la chambre !» cria Léon au cocher.
« Laquelle, monsieur ?»«
Des députés !» répondit Léon après avoir échangé un sourire avec Bixiou.
« Paris commence à me confondre !» dit Gazonal.
« Pour vous en faire connaître l'immensité morale, politique et littéraire, nous agissons en ce moment comme le Cicérone romain, qui vous montre à Saint-Pierre le pouce de la statue que vous avez cru de grandeur naturelle. Vous le trouvez grand d'un pied. Vous n'avez pas encore mesuré l'un des orteils de Paris. »
« Et remarquez, cousin Gazonal, que nous prenons ce qui se rencontre, nous ne choisissons pas. »
« Ce soir, tu souperas comme on festinait chez Balthazar, et tu verras notre Paris, à nous, jouant au lansquenet et hasardant 100 000 francs d'un coup, sans sourciller. »
Un quart d'heure après, la citadine s'arrêtait au bas des degrés de la Chambre des députés, de ce côté du pont de la Concorde qui mène à la Discorde.
« Je croyais la chambre inabordable !» dit le méridional, surpris de se trouver au milieu de la grande salle des pas perdus.
« C'est selon, » répondit Bixiou. Matériellement parlant, il en coûte 30 sous de cabriolet. Politiquement, on dépense quelque chose de plus.
« Les hirondelles ont pensé, » a dit un poète, « que l'on avait bâti l'arc de triomphe de l'étoile pour elle. Nous pensons, nous autres artistes, qu'on a bâti ce monument-ci pour compenser les non-valeurs du théâtre français et nous faire rire. Mais ces comédiens-là coûtent beaucoup plus cher et ne nous en donnent pas tous les jours pour notre argent. »
« Voilà donc la chambre !» répétait Gazonal. Et il arpentait la salle où se trouvaient en ce moment 10 personnes en y regardant tout d'un air que Bixiou gravait dans sa mémoire pour en faire une de ses célèbres caricatures avec lesquels il lutte contre Gavarnet. Léon alla parler à l'un des huissiers qui vont et viennent constamment de cette salle dans celle des séances, à laquelle elle communique par le couloir où se tiennent les sténographes du moniteur et quelques personnes attachées à la chambre.
« Quant au ministre, » répondit l'huissier à Léon au moment où Gazonal se rapproche à d'eux, « il y est. « Mais je ne sais pas si M. Giraud s'y trouve encore. Je vais voir. » Quand l'huissier ouvrit l'un des battants de la porte par laquelle il n'entre que des députés, des ministres ou des commissaires du roi, Gazonal en vit sortir un homme qui lui parut jeune encore, quoiqu'il eût 48 ans, et à qui l'huissier indiqua Léon de Lora. « Ah, vous voilà !» dit-il en allant donner une poignée de main à Léon et à Bixiou. « Drôle, que venez-vous faire dans le sanctuaire des lois ?»«
Parbleu, nous venons apprendre à blaguer, » dit Bixiou.
« L'on se rouillerait sans cela. » « Passons alors dans le jardin, » répliqua le jeune homme, sans croire que le méridional fût de l'accompagner. En voyant cet inconnu, bien vêtu, tout en noir et sans aucune décoration, Gazonal ne savait pas dans quelle catégorie politique le classer. Mais il le suivit dans le jardin contigu à la salle et qui longe le quai, jadis appelé quai Napoléon. Une fois dans le jardin, le ci-devant jeune homme donna carrière à un rire qu'il comprimait depuis son entrée dans la salle des pas perdus.
« Qu'as-tu donc ?» lui dit Léon de Lora.
« Mon cher ami, pour pouvoir établir la sincérité du gouvernement constitutionnel, nous sommes forcés à commettre d'effroyables mensonges avec un aplomb incroyable. Mais moi, je suis journalier. S'il y a des jours où je mens comme un programme, il y en a d'autres où je ne peux pas être sérieux. Je suis dans mon jour d'hilarité. Or, en ce moment, le chef du cabinet, sommé par l'opposition de livrer les secrets de la diplomatie, est en train de faire ses exercices à la tribune. Et comme il est honnête homme, qu'il ne ment pas pour son compte, il m'a dit à l'oreille, avant de monter à l'assaut, « Je ne sais quoi leur débiter. » En le voyant là, le fou rire m'a pris, et je suis sorti, car on ne peut pas rire au banc des ministres, où ma jeunesse me revient parfois intempestivement. « Enfin !» s'écria Gazonal. « Je trouve un honnête homme dans Paris. Vous devez être un homme bien supérieur, » dit-il en regardant l'inconnu. « Ah, ça, qui est monsieur ?» dit le ci-devant jeune homme en examinant Gazonal. « Mon cousin !» répliqua vivement Léon. « Je réponds de son silence et de sa probité comme de moi-même. C'est lui qui nous amène ici, car il a un procès administratif qui dépend de ton ministère. Son préfet veut tout bonnement le ruiner. Et nous sommes venus te voir pour empêcher le Conseil d'État de consommer une injustice.
Quel est le rapporteur ?
Massol.
Bon.
Et nos amis Giraud et Claude Vignon sont dans la section, dit Bixiou. Dis-leur un mot, et qu'ils viennent ce soir chez Carabine, où Dutillet donne une fête à propos de Railways, car on détrousse maintenant plus que jamais sur les chemins, ajouta Léon.
Ah, ça, mais c'est dans les Pyrénées ? Demanda le jeune homme devenu sérieux.
Oui, dit Gazonal. Et vous ne votez pas pour nous dans les élections ?
Dit l'homme d'État en regardant Gazonal.
Non, mais après ce que vous venez de dire devant moi, vous m'avez corrompu. Foi de commandant de la garde nationale, je vous fais nommer votre candidat.
Eh bien, peux-tu garantir encore ton cousin ?
Demanda le jeune homme à Léon.
« Nous le formons !» dit Bixiou d'un ton profondément comique.
« Eh bien, je verrai !» dit ce personnage en quittant ses amis et retournant avec précipitation à la salle des séances.
« Oh, ça, qui est-ce »
demanda Gazonal. « Eh bien, le comte de Rastignac, le ministre dans le département de qui se trouve ton affaire. »«
Un ministre ?» « C'est pas plus que cela ?»«
Mais c'est un vieil ami à nous. Il a 300 000 livres de rente. Il est pair de France. Le roi l'a fait comte. C'est le gendre de Nucingen. Et c'est un des 2 ou 3 hommes d'État enfantés par la Révolution du Juillet. Mais le pouvoir l'ennuie quelquefois, et il vient rire avec nous. »«
Ah, ça, cousin, tu ne nous avais pas dit que tu étais de l'opposition, là-bas ?»
demanda Léon en prenant Gazonal par le bras.
« Es-tu bête ? Qu'il y ait un député de plus ou de moins, à gauche ou à droite, cela te met-il dans de meilleurs draps ?»«
Nous sommes pour les autres. »«
Laissez-les,
dit Bixiou tout aussi comiquement que l'eût Montrose. « Ils ont pour eux la Providence. Elle les ramènera bien sans vous et malgré eux. Un fabricant doit être fataliste. »«
Bon, voilà Maxime avec Canalis et Giraud, » s'écria Léon.
« Venez, ami Gazonal, les acteurs promis arrivent en scène, » lui dit Bixiou.
Et tous trois, ils s'avancèrent vers les personnages indiqués qui paraissaient quasi désœuvrés.
« Vous a-t-on envoyé promener que vous allez comme ça ?» dit Bixiou à Giraud.
« Non, l'on vote au scrutin secret, » répondit Giraud.
« Et comment le chef du cabinet s'en est-il tiré ?»«
Il a été magnifique, » dit Canalis.
« Magnifique, » répéta Giraud.
« Magnifique, » dit Maxime.
« Ah, ça, la droite, la gauche, le centre sont unanimes. »
« Nous avons tous une idée différente, » fit observer Maxime de Trailles, député ministériel.
« Oui, » reprit Canalis en riant, le député qui siégeait vers la droite, quoiqu'il eût été déjà ministre.
« Ah, vous avez eu tout à l'heure un beau triomphe, » dit Maxime à Canalis, « car c'est vous qui avez forcé le ministre à monter à la tribune.
Et à mentir comme un charlatan. » répliqua Canalis.
La belle victoire, répondit l'honnête Giraud.
À sa place, qu'auriez-vous fait?
J'aurais menti.
Ça ne s'appelle pas mentir, dit Maxime de Trailles. Cela s'appelle couvrir la couronne.
Et il emmena Canalis à quelques pas de là.
C'est un bien grand orateur, dit Léon à Giraud en lui montrant Canalis.
Oui et non,
répondit le conseiller d'État. « Il est creux, il est sonore. C'est plutôt un artiste en parole qu'un orateur. Enfin, c'est un bel instrument, mais ce n'est pas la musique. Aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la chambre. Il se croit nécessaire à la France, mais dans aucun cas il ne peut être l'homme de la situation. »
Canalis et Maxime étaient revenus vers le groupe au moment où Giraud, le député du centre-gauche, venait de prononcer cet arrêt. Maxime prit Giraud par le bras et l'entraîna loin du groupe, pour lui faire peut-être les mêmes confidences qu'à Canalis.
« Quel honnête et digne garçon !» dit Léon en désignant Giraud à Canalis.
« C'est de ces procédés qui tuent les gouvernements, » répondit Canalis.
« À votre avis, est-ce un bon orateur ?»
« Oui et non, » répondit Canalis.
« Il est verbeux, il est filandreux. C'est un ouvrier en raisonnement, c'est un bon logicien. Mais il ne comprend pas la grande logique, celle des événements et des affaires. Aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la chambre. »
Au moment où Canalis portait cet arrêt sur Giraud, celui-ci revint avec Maxime vers le groupe. Et, oubliant qu'il se trouvait un étranger dont la discrétion ne leur était pas connue, comme celle de Léon et de Bixiou, il prit la main à Canalis d'une façon significative.
« Eh bien, lui dit-il, je consens à ce que propose Monsieur le comte de Trailles. Je vous ferai l'interpellation. »
« Nous aurons alors la chambre à nous dans cette question, car un homme de votre portée et de votre éloquence a toujours l'oreille de la chambre. » répondit Canalis.
Je répondrai, vous pouvez décider un changement de cabinet, car vous ferez sur un semblable terrain tout ce que vous voudrez de la chambre, et vous deviendrez l'homme de la situation.
Maxime les a mis dedans tous les deux, dit Léon à son cousin. Ce gaillard-là se trouve dans les intrigues de la chambre comme un poisson dans l'eau.
Qui est-ce ? Demanda Gazonal.
Un ex-coquin, répondit Bixiou.
Giraud, cria Léon au conseiller d'État, ne vous en allez pas sans avoir demandé à Rastignac ce qu'il m'a promis de vous dire relativement à un procès que vous jugez après-demain et qui regarde mon cousin.
Et les trois amis suivirent les trois hommes politiques à distance en se dirigeant vers la salle des pas perdus.
Tiens, cousin, regarde ces deux hommes, dit Léon à Gazonal en lui montrant un ancien ministre fort célèbre, et le chef du centre gauche. Voilà deux orateurs qui ont l'oreille de la Chambre et qu'on a plaisamment surnommés des ministres au département de l'opposition. Ils ont si bien l'oreille de la Chambre qu'ils la lui tirent fort souvent. « Il est 4 heures, revenons rue de Berlin, » dit Bixiou. « Oui, tu viens de voir le cœur du gouvernement. Il faut en montrer les Helmintes, les Ascarides, le Ténia, le Républicain, puisqu'il faut l'appeler par son nom, » dit Léon à son cousin. Une fois les trois amis emballés dans leur fiacre, Gazonal regarda railleusement son cousin et Bixiou comme un homme qui voulait lâcher un flot de bile oratoire et méridionale. « Je me défiais bien de cette grande bagasse de ville, mais depuis ce matin, je la méprise. La pauvre province, tant mesquine, est une honnête fille. Mais Paris, c'est une prostituée, avide, menteuse, comédienne, et je suis bien content de n'y avoir rien laissé de ma peau. « La journée n'est pas finie, » dit sentencieusement Bixiou, qui cligna de l'œil en regardant Léon. « Et pourquoi te plains-tu bêtement, » dit Léon, « d'une prétendue prostitution à laquelle tu vas devoir le gain de ton procès ? Te crois-tu plus vertueux que nous, et moins comédien, moins avide, moins facile à descendre une pente quelconque, moins vaniteux que tous ceux avec qui nous avons joué comme avec des pantins ?»« Essayez de m'entamer, pauvre garçon, » dit Léon en haussant les épaules. « N'as-tu pas déjà promis ton influence électorale à Rastignac ?»« Oui, parce qu'il est le seul qui se soit mis à rire de lui-même. »« Pauvre garçon !» répéta Bixiou. « Vous me défiez, moi qui n'ai fait que rire. Vous ressemblez à un roquet impatientant un tigre. Si vous nous aviez vus nous moquant de quelqu'un, savez-vous que nous pouvons rendre fou un homme sain d'esprit ?» Cette conversation mena Gazonal jusque chez son cousin, où la vue des richesses mobilières lui coupa la parole et mit fin à ce débat. Le méridional s'aperçut, mais plus tard, que Bixiou l'avait déjà fait poser. À 5h30, au moment où Léon Delora faisait sa toilette pour le soir, au grand ébahissement de Gazonal, qui nombrait les 1001 superfluités de son cousin, et qui admirait le sérieux du valet de chambre en fonction, on annonça le pédicure de monsieur. Publicola Masson, petit homme de 50 ans, dont la figure rappelle celle de Marat, fit son entrée en déposant une petite boîte d'instruments et en se mettant sur une petite chaise en face de Léon, après avoir salué Gazonal et Bixiou. « Comment vont les affaires ?» lui demanda Léon en lui livrant un de ses pieds, déjà préalablement lavé par le valet de chambre. Mais je suis forcé d'avoir 2 élèves, 2 jeunes gens, qui, désespérant de la fortune, ont quitté la chirurgie pour la corporistique. Ils mourraient de faim, et cependant ils ont du talent. Oh, je ne vous parle pas des affaires pédestres, je vous demande où vous en êtes de vos affaires politiques. Masson lança sur Gazonal un regard plus éloquent que toute espèce d'interrogation. « Oh, parlez, c'est mon cousin, et il est presque des vôtres, il est légitimiste. »« Eh bien, nous allons, nous marchons. Dans 5 ans d'ici, l'Europe sera toute à nous. La Suisse et l'Italie sont chaudement travaillées. Et vienne la circonstance, nous sommes prêts. Ici, nous avons 50 000 hommes armés. » Sans compter les 200 000 citoyens qui sont sans le sou. Bah, dit Léon. Et les fortifications? Des croûtes de pâté qu'on avalera, répondit Masson. D'abord, nous ne laisserons pas venir les canons. Et puis, nous avons une petite machine plus puissante que tous les forts du monde. Une machine due aux médecins qui a guéri plus de monde que les médecins n'ont tué dans le temps où elle fonctionnait. Comme vous y allez? Dit Gazonal, à qui l'air de Publicola donnait la chair de poule. « Ah, il faut cela. Nous venons après Robespierre et Saint-Just. C'est pour faire mieux. Ils ont été timides, car vous voyez ce qui nous est arrivé. Un empereur, la branche aînée et la branche cadette. Ils n'avaient pas assez émondé l'arbre social. » « Ah, ça, Vous qui serez, dit-on, consul ou quelque chose comme tribun, songez bien, dit Bixiou, que je vous ai depuis 12 ans demandé votre protection. Il ne vous arrivera rien, car il nous faudra des loustiques et vous pourrez prendre l'emploi de barère, répondit le pédicure. Et moi? Dit Léon. Ah, vous, vous êtes mon client, c'est ce qui vous sauvera, car le génie est un odieux privilège à qui l'on accorde trop en France, et nous serons forcés de démolir quelques-uns de nos grands hommes pour apprendre aux autres à savoir être simples citoyens. Le pédicure parlait d'un air moitié sérieux, moitié badin, qui faisait frissonner Gazonal. Ainsi, dit le méridional, plus de religion ?
Plus de religion de l'État,
reprit le pédicure en soulignant les deux derniers mots. Chacun aura la sienne. C'est fort heureux qu'on protège en ce moment les couvents. Ça nous prépare les fonds de notre gouvernement. Tout conspire pour nous. Ainsi, tous ceux qui plaignent les peuples, qui braillent sur la question des prolétaires et des salaires, qui font des ouvrages contre les jésuites, qui s'occupent de l'amélioration de n'importe quoi, les communistes, les humanitaires, vous comprenez, tous ces gens-là sont notre avant-garde. Pendant que nous amassons de la poudre, ils tressent la mèche à laquelle l'étincelle d'une circonstance mettra le feu. Ah, oh, ça, que voulez-vous donc pour le bonheur de la France ? Demanda Gazonal. L'égalité pour les citoyens, le bon marché de toutes les denrées. Nous voulons qu'il n'y ait plus de gens manquant de tout, et des millionnaires, des suceurs de sang et des victimes.
C'est ça, le maximum et le minimum, dit Gazonal.
Vous avez dit la chose, répliqua nettement le pédicure.
Plus de fabricants ? Demanda Gazonal.
On fabriquera pour le compte de l'État, nous serons tous usufruitiers de la France. On y aura sa ration comme sur un vaisseau, et tout le monde y travaillera selon ses capacités.
Bon, dit Gazonal,
et en attendant que vous puissiez couper la tête aux aristocrates, je leur rogne les ongles, dit le républicain radical qui serrait ses outils et qui finit la plaisanterie lui-même. Il salua très poliment et sortit.
Est-ce possible ? En 1845 ? S'écria Gazonal.
Si nous en avions le temps, nous te montrerions, répondit le paysagiste, tous les personnages de 1793. Tu causerais avec eux. Tu viens de voir Marat. Eh bien, nous connaissons Fouquier-Tinville, Collot d'Herbois, Robespierre, Chabot, Fouché, Barras, et il y a même une Madame Roland.
Allons, dans cette représentation, le tragique n'a pas manqué, dit le méridional.
Il est 6 heures. Avant que nous ne te menions voir les saltimbanques que joue Audrey ce soir, dit Léon à son cousin, il est nécessaire d'aller faire une visite à Madame Cadine, une actrice que cultive beaucoup ton rapporteur Massol et à qui tu auras ce soir à faire une cour assidue.
Comme il faut vous concilier cette puissance, je vais vous donner quelques instructions, reprit Bixiou.
Employez-vous des ouvrières à votre fabrique ?
Certainement, répondit Gazonal.
Voilà tout ce que je voulais savoir, dit Bixiou.
Vous n'êtes pas marié ? Vous êtes un gros...
Oui, s'écria Gazonal. Vous avez deviné mon fort. J'aime les femmes. Eh bien, si vous voulez exécuter la petite manœuvre que je vais vous prescrire, vous connaîtrez, sans dépenser un liard, les charmes qu'on goûte dans l'intimité d'une actrice. En arrivant rue de la Victoire, où demeure la célèbre actrice, Bixiou, qui méditait une espièglerie contre le défiant Gazonal, avait à peine achevé de lui tracer son rôle. Mais le méridional avait, comme on va le voir, compris à demi-mot. Les 3 amis montèrent au 2e étage d'une assez belle maison et trouvèrent Jenny Cadine achevant de dîner, car elle jouait dans la pièce donnée en second au gymnase. Après la présentation de Gazonal à cette puissance, Léon et Bixiou, pour le laisser seul avec elle, trouvèrent le prétexte d'aller voir un nouveau meuble. Mais avant de quitter l'actrice, Bixiou lui avait dit à l'oreille « C'est le cousin de Léon, un fabricant riche à millions, et qui, pour gagner son procès au Conseil d'État contre le préfet, juge à propos de vous séduire. » Tout Paris connaît la beauté de cette jeune première. On comprendra donc la stupéfaction du méridional en la voyant. D'abord, reçu presque froidement, il devint l'objet des bonnes grâces de Jenny Cadine pendant les quelques minutes où ils restèrent seuls. « Comment ?» dit Gazonal en regardant avec dédain le mobilier du salon par la porte que ses complices avaient laissée entr'ouverte, et en supputant ce que valait celui de la salle à manger. « Comment laisse-t-on une femme comme vous dans un pareil chenil ?»« Ah, voilà, que voulez-vous ? Ma sole n'est pas riche. J'attends qu'il devienne ministre. »«
Quel homme heureux !» s'écria Gazonal en poussant un soupir d'homme de province.
« Bon, se dit en elle-même l'actrice, mon mobilier sera renouvelé, je pourrai donc lutter avec Carabine. »«
Eh bien, dit Léon en rentrant, vous viendrez chez Carabine, ce soir on y soupe, on y lance quenette. »«
Monsieur y sera-t-il ? Dit gracieusement et naïvement Jenny Cadine.
« Oui, madame,
fit Cazonal, ébloui de ce succès rapide.
« Mais ma sole y vient, » répartit Bixiou.
« Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? » répliqua Jenny. « Mais partons, mes bijoux, il faut que j'aille à mon théâtre. »
Gazonal donna la main à l'actrice jusqu'à la citadine qui l'attendait, et il la lui pressait si tendrement que Jenny Cadine répondit en se secouant les doigts « Eh, je n'en ai pas de rechange !»
Quand il fut dans la voiture, Gazonal essaya de serrer Bixiou par la taille en s'écriant
« Elle a mordu ! Vous êtes un fier scélérat !»«
Les femmes le disent !» répliqua Bixiou. À 11h30, après le spectacle, une citadine emmena les trois amis chez Mademoiselle Séraphine Ciné, plus connue sous le nom de Carabine, un de ces noms de guerre que prennent les illustres lorettes ou qu'on leur donne, et qui venait peut-être de ce qu'elle avait toujours tué son pigeon. Carabine, devenue presque une nécessité pour le fameux banquier du Tillet, député du centre-gauche, habitait alors une charmante maison de la rue Saint-Georges. Il est dans Paris des maisons dont les destinations ne varient pas, et celle-ci avait déjà vu 7 existences de courtisane. Un agent de change y avait logé, vers 1827, Suzanne Duval-Noble, devenue depuis Madame Gaillard. La fameuse Esther y fit faire au baron de Nucingen les seules folies qu'il ait faites. Florine, puis celle qu'on nommait plaisamment Feu Madame Schontz, y avait tour à tour brillé. Ennuyé de sa femme, Du Tillet avait acquis cette petite maison moderne et y avait installé l'illustre Carabine, dont l'esprit vif, les manières cavalières, le brillant dévergondage formait un contrepoids aux travaux de la vie domestique, politique et financière. Que Du Tillet ou Carabine fussent ou ne fussent pas au logis, la table était servie, et splendidement, pour 10 couverts tous les jours. Les artistes, les gens de lettres, les journalistes, les habitués de la maison y mangeaient. On y jouait le soir. Plus d'un membre de l'une et l'autre chambre venait chercher là ce qui s'achète au poids de l'or à Paris, le plaisir. Les femmes excentriques, ces météores du firmament parisien qui se classent si difficilement, apportaient là les richesses de leurs toilettes. On y était très spirituel, car on y pouvait tout dire, et on y disait tout. Carabine, rivale de la non moins célèbre Malaga, s'était enfin portée héritière du salon de Florine, devenue Madame Nathan, de celui de Tullia, devenue Madame du Bruel, de celui de Madame Schontz, devenue la femme d'un président en province. En y entrant, Gazonal ne dit qu'un seul mot, mais il était à la fois légitime et légitimiste.
« C'est plus beau qu'aux Tuileries !»
Le satin, le velours, les brocarts, l'or, les objets d'art qui foisonnaient, occupèrent si bien les yeux du provincial qu'il n'aperçut pas Jenny Cadine dans une toilette à inspirer du respect, et qui, cachée derrière carabine, étudiait l'entrée du plaideur en causant avec elle. « Ma chère enfant, dit Léon, voilà mon cousin, un fabricant qui m'est tombé des Pyrénées ce matin. Il ne connaissait rien encore de Paris. Il a besoin de Massol pour un procès au Conseil d'État. Nous avons donc pris la liberté de vous amener M. Gazonal à souper en vous recommandant de lui laisser toute sa raison. « Comme monsieur voudra. Le vin est cher, » dit Carabine qui toisa Gazonal et ne vit en lui rien de remarquable. Gazonal, étourdi par les toilettes, les lumières, l'or et le babil des groupes qu'il croyait occupés de lui, ne put que balbutier ces mots. « Madame, madame est bien bonne. « Que fabriquez-vous ? » lui demanda la maîtresse du logis en souriant. « Des dentelles, et offrez-lui des guipures, » souffla Bixiou dans l'oreille de Gazonal. « Vous êtes dentiste ? Dis donc, Cadine, un dentiste, tu es volée, ma petite. »« Des dentelles, » reprit Gazonal en comprenant qu'il fallait payer son souper. « Je me ferai le plus grand plaisir de vous offrir une robe, une écharpe, une mantille de ma fabrique. » « Ah, trois choses! Eh bien, vous êtes plus gentil que vous n'en avez l'air !» répliqua Carabine. « Paris m'a pincé !» se dit Gazonal en apercevant Jenny Cadine et en allant la saluer. « Et moi, qu'aurais-je ? » lui demanda l'actrice. « Mais toute ma fortune !» répondit Gazonal, qui pensa que tout offrir, c'était ne rien donner. « Massol, Claude Vignon, Du Tillet, Maxime de Trailles, Nucingen, Dubruel, Malaga, Monsieur et Madame Gaillard, Vauvinet, une foule de personnages entra. Après une conversation à fond avec le fabricant sur le procès, Massot, sans rien promettre, lui dit que le rapport était à faire et que les citoyens pouvaient se confier aux Lumières et à l'indépendance du Conseil d'État. Sur cette froide et digne réponse, Gazonal, désespéré, crut nécessaire de séduire la charmante Jenny Cadine, de laquelle il était éperdument amoureux. Léon de Lora, Bixiou, laissèrent leur victime entre les mains de la plus espiègle des femmes de cette société bizarre. Car Jenny Cadine est la seule rivale de la fameuse Déjazée. À table, où Gazonal fut fasciné par une argenterie due au Benvenuto Cellini moderne, à froment Maurice, et dont le contenu valait les intérêts du contenant, les deux mystificateurs eurent soin de se placer loin de lui, mais ils suivirent d'un œil sournois les progrès de la spirituelle actrice, qui, séduite par l'insidieuse promesse du renouvellement de son mobilier, se donna pour thème d'emmener Gazonal chez elle. Or, jamais mouton de fête-dieu ne mit plus de complaisance à se laisser conduire par son saint Jean-Baptiste que Gazonal à obéir à cette sirène. Trois jours après, Léon et Bixiou, qui ne revoyaient plus Gazonal, le vinrent chercher à son hôtel vers 2 heures après-midi. « Eh bien, cousin, un arrêté du conseil te donne gain de cause. »« Hélas, c'est inutile, cousin, » dit Gazonal qui leva sur ses deux amis un œil mélancolique. « Je suis devenu républicain. »«
Qu'est-ce à quoi ? »
dit Léon. « Je n'ai plus rien, pas même de quoi payer mon avocate, » répondit Gazonal. « Madame Jenny Cadine a de moi des lettres de change pour plus d'argent que je n'ai de biens. »
« Le fait est que Cadine est un peu chère, mais... »« Oh, j'en ai eu pour mon argent, » répliqua Gazonal. « Ah, oh, quelle femme ! Allons, la province ne peut pas lutter avec Paris. Je me retire à la trappe. »«
Bon, » dit Bixiou, « vous voilà raisonnable. Tenez, reconnaissez la majesté de la capitale. »«
Et du capital, »
s'écria Léon en tendant à Gazonal ses lettres de change. Gazonal regardait ses papiers d'un air hébété.
« Vous ne direz pas que nous n'entendons point l'hospitalité. Nous vous avons instruit, régalé et amusé, » dit Bixiou.